Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Avez-vous la main verte? C'est la question que j'ai envie de vous poser ce matin à l'occasion de cette dernière émission sur la prière de notre série spéciale confinement. Car en réalité, de jardinage, on ne cesse d'en parler dans la vie chrétienne. À l'homme a été confié le soin de cultiver la terre et d'entretenir avec attention le cadeau de la création. Mais pour trouver le maître des lieux, il lui faudrait plonger en lui-même et découvrir cette fois une sorte de jardin intérieur. Un lieu inconnu à la plupart des hommes où Dieu pourtant, sous les traits d'un jardinier, se tient et attend l'assistant que nous sommes. La vie spirituelle donc, une histoire de jardinage, un secret peut-être trop bien gardé. Trouver Dieu chez soi, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, quatrième émission du genre. C'est notre série spéciale à l'occasion de ce temps de confinement. On aurait pu en fait prolonger, puisque ce confinement est prolongé. Nous sommes avec vous ce matin, Jean-Gabriel Rueck. Vous êtes religieux carme et prieur du couvent de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être venu pour clore donc cette série. Alors on s'est dit qu'on allait faire œuvre de pédagogie. C'est votre fond de commerce, pardon, mais c'est votre talent et votre patience que d'essayer justement de parler, de reparler de la prière avec toujours autant de pédagogie. On va prendre le temps d'essayer de récapituler ce qu'est cette prière dont on a parlé, cette particulièrement la prière d'oraison. Et puis on parlera dans cette émission donc des fruits de l'oraison. Que peut-on espérer de cette relation que l'on peut nouer à vous entendre donc avec Dieu? Alors comme à chaque fois, on essaye de partir de ce que vivent une bonne partie de nos auditeurs. C'est un sondage TNS Sofres commandé par le magazine Prions en Église qui, alors il y a quelques années de cela, révélait qu'un Français sur deux déclarait encore aujourd'hui prier ou méditer. Et dans cette prière, 59% disent qu'ils s'adressent à Dieu. Ils préfèrent que cette prière soit personnelle plutôt qu'en groupe, et ils font ça donc chez eux plutôt qu'ailleurs. Donc les Français ne continueraient à essayer de parler à Dieu, donc à quelqu'un, mais ça serait une prière, on va dire, moins institutionnelle. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Jean-Gabriel Rueck?
59% des Français donc désirent faire ou pensent faire une prière personnelle. Alors moi de prime abord là, je dirais que c'est très bien qu'ils désirent prier. Ce désir de prière est au fond de chacun, de chaque personne, puisque nous sommes tous ordonnés à la vie de Dieu, à la vie surnaturelle. Dieu nous a créés en état de grâce justement pour participer à sa vie, pas seulement la vie dans son royaume, mais la vie de Dieu ici et maintenant. Alors maintenant, en même temps, si vous voulez, je trouve ça très bien, mais en même temps, j'ai quelques réticences. Alors pourquoi? Eh bien parce que précisément dans cette prière personnelle, qui est tout à fait la prière de l'oraison dont nous allons parler ce matin, le problème c'est qu'on met beaucoup de choses sous le terme de prière ou de méditation, surtout à l'heure actuelle. Vous savez que nous sommes dans une civilisation marqué beaucoup par le New Age, il faut quand même en parler, marqué par une crise aussi, une crise qui a marqué beaucoup l'Église, où justement on a voulu évincer toute une dimension spirituelle et mystique pour s'intéresser plutôt à une idéologie et à toute une dimension sociale de l'Évangile, quitte à faire de l'Évangile un bréviaire de cette vie sociale.
Et une idéologie, qu'est-ce que ça veut dire? Vous y allez fort, non?
Oui, j'y vais fort, oui, je pense, mais si vous moi, je suis un enfant de mai 68, vous voyez, je suis né en 1961, donc si vous voulez, j'ai vu quand même une petite crise dans l'Église, faut quand même le dire, je ne pense pas être absolument incorrect, politiquement incorrect, en disant qu'il y a une petite crise, et encore, une petite, je suis quand même très,
soft.
Très soft, on est d'accord. Bon, donc, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une, on a fait de... il faut se garder, et vous allez voir aussi, je pense qu'il faut se garder de dire que le christianisme c'est une idéologie, ou c'est même une philosophie, ou c'est même une morale, ou c'est même une sagesse. Non, le christianisme c'est le Christ, c'est la personne du Christ. Vous voyez, là, le christianisme c'est la personne du Christ que nous croyons être Dieu, le Verbe fait homme, hein, vrai Dieu et vrai homme, hein, il y a des pères de l'Église qui se sont battus pour cette définition dogmatique, qui est le fondement même de toute notre foi. Donc, si vous voulez, le Christ est central, hein, dans notre foi, et la véritable foi théologale, c'est-à-dire cette vertu que Dieu nous donne au baptême, avec l'espérance et la charité, hein, cette foi, elle est centrée, elle vient du Christ, elle est donnée par le Christ, nous l'accueillons et toute la vie justement chrétienne, c'est d'accueillir de plus en plus dans la foi ce Christ qui est en nous, hein, puisqu'il s'agit de comprendre que par l'Esprit Saint, finalement, toute la Trinité est en nous. Et la prière, c'est justement, ce n'est pas la nature à horreur du vide, vous voyez. Alors quand j'entends, par exemple, quand on me parle de certaines méditations transcendantales ou de pleine conscience, mais de pleine conscience d'un vide qu'il faudrait atteindre pour être bien, ben je me dis que ce n'est pas de la prière. La prière, c'est entrer en relation avec ce Dieu qui nous aime et qui a pris un visage et qui a un nom et qui s'appelle Jésus-Christ.
Alors, c'est justement votre introduction de nous rappeler, comme il a été dit presque à chaque émission, que la prière, ce serait donc d'abord un commerce d'amitié. C'est donc cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila qu'on a déjà entendue. Alors, me vient quand même une question à ce sujet. C'est que si l'objet de la prière, c'est donc de découvrir Dieu en soi, vous dites même la Trinité, et qu'on est peu familier de Dieu, voire de la prière, d'imaginer que l'on va retrouver un ami, il y a là comme une injonction un peu contradictoire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de tellement grand, comment imaginer être ami avec Dieu ?
Mais c'est tout le paradoxe de la foi chrétienne. C'est un Dieu qui est transcendant à nous, évidemment. Il est créateur de tout ce qui est. Donc, pensez-vous, il est quand même assez transcendant. Et en même temps, il se fait proche, tout proche de nous. C'est la grande paradoxe. Vous savez, la foi chrétienne est pleine de paradoxes. Elle ne vit que... Vous voyez ? Mais ces paradoxes ne sont pas des contradictions. Au contraire, ça nous permet de voir en plénitude la richesse, justement, de notre foi. Oui, Dieu est un Dieu transcendant, mais c'est un Dieu d'amour qui justement a voulu se faire l'un de nous pour être proche de nous, pour nous sauver du péché, nous sauver de justement de cette rupture avec Dieu qu'on appelle le péché originel, dont on parle plus évidemment. Faut plus parler du péché originel, faut plus parler de tas de dogmes, mais je ne sais plus d'ailleurs où on en est parfois. Mais en attendant, je suis désolé, moi, la foi repose sur la tradition de l'Église, sur le magistère de l'Église qui ne peut nous tromper parce qu'il a l'assistance du Saint-Esprit, hein, et le magistère de l'Église nous dit que Dieu s'est fait homme, hein, pour que l'homme puisse être par lui, par le Christ, divinisé, retrouver justement cette nature divine que le péché lui avait fait perdre. Hein, vous voyez que cette nature divine qui lui est rendue par la rédemption, par l'offrande d'amour du Christ, hein, qui va jusqu'au bout de son amour, hein, jusqu'au bout de la croix. Et à ce sujet-là, si vous me permettez, Emmanuel, j'aimerais, je vous en ai demandé l'autorisation avant l'émission, et vous m'avez donné sa permission, de citer le pape Benoît XVI, mais il n'était pas encore Benoît XVI quand il a écrit cette préface à un chef-d'œuvre qu'il a écrit quand il était encore, il n'était pas encore cardinal, même il était seulement humble professeur de théologie. Mais quel professeur et quel théologien. Dans sa préface à son chef-d'œuvre, La foi chrétienne hier et aujourd'hui. Donc préface à la nouvelle édition de l'an 2000. Et à mon avis, ça va nous éclairer sur ce qu'on est en train de dire.
Alors allez-y, donnez la citation.
Alors, la figure du Christ, à l'heure actuelle, est interprétée de façon totalement nouvelle par rapport à une vision plus biblique et plus catholique, je dirais. Hein. Non seulement par rapport au dogme, mais également par rapport à l'Évangile. La foi que le Christ est le Fils unique de Dieu, quand lui, Dieu, est réellement présent comme homme parmi nous, et que l'homme Jésus est éternellement en Dieu, qu'il est Dieu lui-même, non pas une figure sous laquelle Dieu se révèle, mais Dieu lui-même, le Dieu unique et non interchangeable, cette foi est alors éliminée. Le Christ cesse d'être l'homme qui est Dieu pour devenir un homme qui a fait l'expérience de Dieu.
Alors, excusez-moi.
D'une manière particulière. Il est un illuminé et n'est plus fondamentalement différent de cela d'autres illuminés comme Bouddha par exemple. Et là, il a... Alors,
en même vous temps, êtes, vous êtes remonté, mais on entend quand même le cri du cœur, justement, de ce... Mais vous êtes remonté pourquoi, si je peux me permettre? On entend que vous êtes remonté parce que vous avez traversé des choses dans l'Église, et puis c'est pas l'objet de l'émission.
Ouais.
Mais c'est quoi, en fait? C'est votre expérience, justement, d'amitié avec ce Dieu et de voir... quelque part, comme je disais en introduction, combien on parle peu, oui, de la prière et de la vraie,
vous
selon
savez
la vôtre.
Quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de dire que vous l'aimez, vous avez envie de partager cette amitié ou cet amour que vous avez pour lui, de le faire connaître, de le faire aimer. Et je pense qu'il est, il faut être fidèle en même temps, fidèle à cette amitié, mais il faut être fidèle à rendre compte de cette amitié d'une manière tout à fait ajustée à ce qu'est l'ami, voyez. Et moi, ce que je n'aime pas, c'est les déformations, mais c'est pas seulement moi. Je pense que les catholiques ne devraient pas aimer les déformations de la foi. Moi, je suis remonté quand on déforme la foi, voyez, quand on déforme, et que déformer la foi, c'est déformer le Christ, vous comprenez. Si on ne voit dans le Christ qu'un homme qui a fait l'expérience de Dieu, mais qui n'est pas Dieu lui-même, on tronque le Christ de ce qu'il est, fondamentalement, voyez. Il est la plénitude de la révélation. Comme dit saint Jean de la Croix, le Père a une seule parole et c'est son Fils, le Verbe, voyez. Et il a redit cette parole dans un silence, et c'est dans ce silence éternel que l'homme doit l'écouter.
Alors,
l'accueillir.
Juste ce silence, venons-y. D'une certaine manière, c'est d'apprivoiser le silence, ce que vous avez essayé de faire en nous accompagnant à l'occasion de cette série donc sur la prière. Cette prière, en l'occurrence, c'est donc la prière d'oraison. Donc, on l'a compris, cette habitude de prendre du temps pour Dieu seul et seul à seul avec lui. Il y a autre chose, peut-être, sur lequel je voulais vous réinsister. C'est le cœur, parce que parfois on s'y perd un peu,
oui,
l'esprit, le cœur, etc.
À
vous lire, saint Jean de la Croix dit qu'en fait le fond de la personne, le centre le plus profond de l'âme, si j'ai bien lu, ce serait justement le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Le centre le plus profond, je préfère dire le centre, le el más profundo centro del alma, le centre le plus profond de l'âme. C'est mieux que de dire le cœur, parce que vous savez, le cœur depuis très longtemps, n'a plus la même signification que la signification biblique. Vous savez, le cœur, pour la Bible, c'est le centre, la source de la volonté, de l'intelligence, des pensées, c'est un centre de décision. Vous voyez, le cœur, maintenant, est devenu plutôt à une dimension plus affective, maintenant, dans notre conception contemporaine actuelle, voyez, le cœur. Hein. Alors, non pas qu'elle n'y soit pas, attention, hein, elle y est nécessairement. Hein. Il y a aussi notre affectivité qui joue, hein, bien entendu, dans la vie de prière. Mais je préfère parler de la fine pointe de l'âme, si vous voulez, hein, pour parler, je crois, comme saint François de Sales, ou même sainte Thérèse d'Avila, hein, ou centre de l'âme, si vous voulez, Dieu, là où Dieu réside. Hein, si vous voulez, c'est justement ce centre le plus profond de notre cœur, mais au sens où c'est le centre, hein, c'est le centre de notre personne, hein, d'où tout doit rayonner. Hein. C'est le centre de décision, d'accueil aussi, justement, qu'on fait de notre volonté, de notre liberté, hein, de personne humaine, à l'accueil donc de la grâce de Dieu, puisque Dieu est grâce, Dieu est gratuité d'amour. Hein, mais cette gratuité d'amour demande notre accueil, demande notre disposition de cœur, demande notre consentement, voyez, c'est très important, et c'est le consentement de la foi. Et tout va se faire dans la prière, tout se joue, mais dans la vie chrétienne aussi, tout se joue dans ce consentement, je dirais, quotidien, dans cet accueil quotidien, dans cette réceptivité quotidienne du don que Dieu nous fait de lui, dans son Esprit Saint, qui est en nous. Vous voyez, l'Esprit Saint est en nous et agit, veut agir justement pour nous donner de produire des fruits, hein, les fruits de l'oraison.
Alors, il y a trois facultés aussi, ça on peut rappeler ça puisque on fait une session de rattrapage, on va dire, en ce début d'émission. Trois facultés donc, qui sont les trois vertus théologales qui nous aident à rentrer en relation avec Dieu. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à nouveau la mécanique foi, espérance, charité?
Oui.
Qu'est-ce que chacune active et en quoi c'est les portes d'entrée,
oui,
ou les piolets pour arriver à rentrer en relation
Tout
avec
à
Dieu
fait. parce que c'est très important. Saint Jean de la Croix dit bien que la vraie vie mystique, c'est justement cette vie théologale de foi, d'espérance et de charité, vécue avec une intensité, avec dans une foi vivante, dans une réalité. C'est une réalité vivante, hein, c'est une activité finalement de l'âme. C'est la principale activité de l'âme, c'est de justement de faire grandir ces vertus de foi, d'espérance et de charité. Donc la foi se greffe, nous dit Saint Jean de la Croix, sur l'intelligence. C'est-à-dire que la foi va permettre à l'intelligence de croire véritablement à tout ce que Dieu révèle de lui. Hein, la foi, c'est finalement c'est l'éclairage, l'illumination, l'éclairage, si vous voulez, de l'intelligence, de notre intelligence, hein, sur les Dieu, sur la personne du Christ notamment, et sur tout ce qui va avec, hein, de toute la révélation, hein, chrétienne, judéo-chrétienne. Ensuite, l'espérance, c'est de croire que c'est d'espérer justement avoir part à la gloire de Dieu, à la vie de Dieu pour toujours, hein, ce royaume des cieux que le Christ nous promet. C'est la seule chose qu'il promet. Si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. Hein. Vous avez la vie éternelle, c'est déjà commencé, et vous aurez la plénitude de cette vie éternelle qui est la gloire de Dieu. C'est-à-dire ressusciter avec Dieu pour toujours. C'est ça, c'est pas une espérance de revivre dans cette galère actuelle, voyez, hein, parce que si on vivait éternellement, voyez, avec le Covid qui nous menace, hein, je ne sais pas si ça serait vraiment très intéressant de vivre la vie éternelle. Voyez, la vie éternelle, c'est le bonheur en Dieu pour toujours. Donc ça, c'est cette espérance-là cette attente, hein, c'est que puis on est dans le temps de l'Avent, on peut parler de cette attente. C'est vraiment le temps de l'Église. Voyez, on est entre le premier avènement du Christ, son incarnation, et puis son attente du retour en gloire, second avènement, et enfin la charité. La charité qui
procède de quelle faculté ?
Alors l'espérance se greffe sur la mémoire.
La
mémoire, hein, parce que justement l'espérance va appauvrir précisément la mémoire, va l'appauvrir au sens il faudrait vraiment plus de temps pour vous expliquer. Je schématise énormément, mais si vous voulez, la mémoire a quelque chose à voir avec l'espérance, parce que précisément, c'est l'espérance, c'est le souvenir, c'est le mémorial, si vous voulez, c'est le souvenir de Dieu, hein, sans cesse présent à nous, sans cesse présent pour nous, et en même temps que nous attendons, donc avec foi et espérance, sans le voir encore, hein, dans la foi, mais sans le voir encore, nous l'espérons. Et enfin, la charité, qui est la plus grande des trois, selon saint Paul, la charité, c'est l'amour de Dieu en nous, pour nous et pour les autres aussi, hein, et pour lui, enfin, l'amour pour Dieu, et plus on est uni à Dieu, plus... logiquement, on aime les autres, voyez, comme Dieu l'aime.
Et qui passe par quelle faculté ?
Alors, par la volonté. La volonté, hein, qui s'exerce justement, hein, qui s'exerce par des actes d'amour, justement, hein, cette volonté, alors ces facultés naturelles de l'âme, intelligence, mémoire et volonté, vont être justement purifiées par ces vertus théologales, hein, de plus en plus. Plus on laisse Dieu vivre en nous, et plus il nous purifie, il nous sanctifie, il affine, si vous voulez, il fait que ces facultés vont reprendre leur fonctionnement normal, enfin leur vocation plutôt originelle, c'est-à-dire d'être tournées vers l'amour de Dieu pour l'exprimer dans notre vie.
Trouver Dieu chez soi, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, le cri du cœur ce matin de Jean-Gabriel Rueg pour entrer dans l'oraison. On va faire une première pause et puis on va parler des fruits de l'oraison. On parlera des fruits, on va dire, qu'on peut espérer pour tout à chacun. Et puis à la fin de l'émission, peut-être des fruits plus extraordinaires, comme un horizon vers lequel courir.
Emmanuel Pella.
Trouver Dieu chez soi, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, quatrième du genre pour cette série spéciale deuxième confinement. Je sens qu'on pourrait presque avoir du rab à entendre le feu de notre invité de ce matin, Jean-Gabriel Rueg. Vous êtes donc religieux carme et prieur du couvent de Toulouse. Alors une fois qu'on a, on va dire, qu'on a écouté ces quelques émissions, et puis peut-être d'autres qui ont été diffusées par cette antenne, sur la prière, qu'on a à peu près compris ce que c'était que la prière d'oraison, qu'on a pris l'habitude d'une certaine régularité dans ce temps de solitude, que peut-on espérer ? Me vient donc, et vous me l'avez soufflé, une première suggestion. Vous l'avez dit aussi en première partie, à propos des facultés de l'âme, donc, que sont l'intelligence, la mémoire et la volonté, sur laquelle donc se greffe d'une certaine manière, où s'exerce la foi, l'espérance et la charité. À vous lire, en fait, ce serait que petit à petit, au début, c'est surtout que les choses s'ordonnent, c'est ça ? Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ? S'ordonnerait y compris dans nos sens.
Oui. Alors ça, si vous voulez, dans nos sens, oui, bien sûr, dans toute notre personne va être unifiée. Précisément, on recherche, puisque, si vous voulez, le péché nous a dispersés. La grâce va nous unifier, on va retrouver notre unité intérieure. On va retrouver, par le centre de notre âme, justement, qui est Dieu, nous allons retrouver finalement ce pourquoi nous sommes faits, ce pourquoi nous existons. Nous existons justement pour découvrir l'amour que Dieu a pour nous et pour en vivre. C'est cela la vie de l'homme. La vie de l'homme n'est pas autre chose. On voit le malheur, le désespoir de tant d'hommes qui ont, malheureusement avec tous les philosophes du soupçon qui leur ont dit que Dieu n'existait pas, on voit ce que ça donne à l'heure actuelle. Mais des détresses pas possibles. Vous voyez des gens qui sont dans le désespoir, dans le découragement, parce que précisément on ne leur donne pas cette foi que Dieu a. D'abord pour nous, c'est tout de même absolument incroyable qu'un Dieu se soit fait homme, alors qu'il n'a pas besoin de nous, vous savez, pour être heureux Dieu, hein, mais il veut avoir besoin de nous, vous voyez, c'est ça qui est incroyable, vous voyez, donc ça c'est toute la dimension de l'incarnation et de l'amour de Dieu. Donc d'abord le premier fruit de l'oraison, c'est d'être en présence de cet ami qui est Dieu. Cet ami véritable, notre mère Sainte Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, donc ne cesse de le dire, c'est l'ami véritable. Et je ne vous demande qu'une seule chose, mes sœurs, elle s'adresse à ses sœurs dans le chemin de perfection notamment, c'est pas trop de vous regarder, de regarder votre misère, c'est pas tant ça que de le regarder lui. Le regarder, en plus le regarder vous regardant et vous aimant. Il est l'ami véritable à qui nous devons tenir compagnie, parce qu'il est bon de tenir compagnie à l'ami. Vous voyez, c'est pour ça que la meilleure définition vraiment de l'oraison, c'est celle que donne Sainte Thérèse d'Avila. Hein. C'est donc l'échange, c'est une relation ou un échange d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Alors, c'est magnifique,
frère
tout est dit. Là.
Frère Jean-Gabriel, on entend, donc le premier fruit, ça serait celui-là. Est-ce que ce fruit, on peut le goûter assez rapidement, ou est-ce que s'appeler le frère Jean-Gabriel Rueg et être carme depuis 20 ans pour pouvoir dire ça?
Je dirais que je m'insurge un petit peu contre, parce qu'il y a quand même un effet de la contemplation. Donc c'est vrai que il faut se méfier d'une certaine lecture de Saint Jean de la Croix qui pense que Saint Jean de la Croix voudrait nous dire que finalement entrer dans la contemplation, c'est entrer dans une nuit profonde avec aucune lumière.
Qu'est-ce que vous appelez la contemplation?
Alors la contemplation. Ah, on ne vous a pas encore parlé de la contemplation, mais qu'est-ce que c'est ? Il faut
Alors,
faire une émission.
Ne faites pas une trop grande digression, hein, essayez de répondre à ma question.
Il faut faire une émission. Je crois que ça a été très... Vous voyez, le passage de la méditation à la contemplation. Vous voyez, la contemplation, c'est encore un don, un fût de Dieu, c'est un don, une grâce, si vous voulez, qui est liée à la prière, où Dieu se manifeste, mais d'une manière très ténue. Vous savez, c'est toujours dans la foi. Et Saint Jean de la Croix parle toujours du clair-obscur de la foi. Je préfère parler du clair obscur de la foi, parce qu'on parle de la nuit obscure de la foi, c'est pas très juste, parce que Saint Jean de la Croix dit bien que la foi est certaine et obscure, à la fois obscure parce qu'on n'a pas l'évidence de Dieu, mais elle est certaine, et ça suffit. Dieu seul suffit. Quand vous êtes certain que Dieu existe et qu'il vous aime, bien cela suffit, comme disait Saint François. Dieu est,
alors,
cela
ça,
suffit,
pour
Thérèse d'Avila, Dieu seul suffit.
Pour revenir à ma question, ça peut venir dès le début ?
Mais bien sûr, dès le début si vous voulez, mais surtout à l'heure actuelle, où le Seigneur a tellement besoin de se faire des amis dans notre monde. Hein, il en a plein dans le monde, dans son royaume, il en a plein. C'est les saints, hein, les saints, et ce sont ses amis. Mais il a envie qu'on soit, il a envie d'avoir des amis dans ce monde. Et heureusement, il en a. Hein. Mais il en a, c'est lui qui les fait. Donc, si vous voulez, Dieu nous aime le premier, il nous donne des grâces de conversion, il nous donne des grâces actuelles, mais dans la vie d'oraison, c'est un cheminement, c'est une croissance, c'est une vie, c'est une aventure, on pourrait dire aussi. Donc, si vous voulez, c'est pas linéaire. Vous allez avoir effectivement des périodes où vous allez de sécheresse, comme on dit, des périodes où finalement Dieu, vous avez l'impression, il est moins sensible. Parce que Dieu n'est pas toujours sensible au cœur, vous voyez, hein, comme dit Pascal, vous savez, dans sa nuit. Mais Pascal est un mystique authentique, hein, vous savez, dans le philosophe mémorial, dans le mémorial, hein, qu'on a retrouvé sur lui après sa mort, hein, sa nuit de feu, hein, il appelle ça sa nuit de feu, où Dieu s'est révélé à lui comme Dieu intime au cœur, vous voyez, comme Saint Augustin. Donc, vous voyez, cette intimité de Dieu, il y a une certitude que Dieu soit là. Alors, peut-être ça ne va pas être dans de grandes lumières, dans de grandes consolations sensibles, mais, et c'est pour ça que Saint Jean de la Croix parle de la contemplation comme d'une connaissance générale, confuse, amoureuse de Dieu. Vous voyez, c'est très ténu, c'est pas grand-chose, mais ça suffit. Quand vous mettez en oraison pendant une heure, enfin nous on a 2 heures d'oraison par jour, hein, 1 heure le matin, 1 heure le soir, ensemble à la chapelle, sans rien dire, si vous voulez, vous prenez l'habitude, ça devient une expérience absolument vitale pour simplement un contact de foi. Ça peut être très léger, c'est n'éprouver aucun, mais vous l'avez ce contact de foi, il est là, je suis là. Il m'avise et je l'avise. Vous savez, c'est le paysan du curé d'Ars.
Alors, autre image, d'une certaine manière, c'est donc cette histoire des abeilles qui rentrent à la ruche pour expliquer ce qui se passe avec nos sens. Donc, oui. C'est ceci étant posé.
C'est une image que donne Sainte Thérèse d'Avila, hein, effectivement, pour l'oraison de recueillement.
On obtient comme, hein, une maîtrise des,
voilà,
sens, petit à petit.
Voilà. C'est-à-dire tout le début de l'oraison, c'est ça qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est la persévérance dans l'oraison. Le plus difficile, autrement dit, c'est le commencement. Justement, c'est ce passage, il va falloir persévérer parce que précisément, on n'est pas recueilli. Nos sens sont dispersés, sont souvent beaucoup à l'extérieur. Voyez, surtout, on a une société, voyez, qui favorise cette... Hein. Bernanos disait qu'on était dans une société, la société moderne, c'est vraiment un des plus grands obstacles à la contemplation.
Conspiration contre la vie intérieure.
Ouais, contre la vie intérieure, voilà, c'est ça, dans la France contre les robots, hein. C'est sa conspiration. Voilà. Et donc, vous voyez, donc effectivement, il y a un effort, enfin un effort sans trop d'effort, parce que vous voyez, c'est pas la force du poignet, hein, que vient la grâce de Dieu, hein. C'est même pas une récompense. Mais il faut faire l'effort de se tenir en présence de Dieu. Et pour cela, Thérèse d'Avila dit, en présence de Dieu qui est à l'intime de notre cœur depuis notre baptême, au centre de notre âme, il va falloir se recueillir nos sens, hein, comme les abeilles qui reviennent à la ruche pour faire leur miel. Vous voyez, elle prend cette image-là. Et donc, effectivement, tout le difficile pour nous, c'est de ne pas être troublé par notre imagination, hein, la note de grâce tout d'un coup qui va arriver, tiens, je ne l'ai pas payé, vous voyez. Alors, il y a des gens qui se troublent parce qu'ils ont des distractions. Mais attendez, tout le monde a des distractions.
Alors, les distractions, on en a parlé, ouais, la fois dernière. Là, à entendre cette image, c'est qu'à un moment, assez naturellement dans notre vie,
ouais,
on découvre aussi que quelque part, nos sens sont moins, on va dire, éclatés.
Nous
ou
avons
affolés,
des sens internes.
Et
exactement,
on a comme une manière,
on a des
une
sens
habitude,
internes,
même dans
exactement
le quotidien,
voilà,
comme d'arriver à quoi ? À se recueillir, à se concentrer, à être en soi-même.
Il va falloir justement, c'est cela justement, cette fidélité à l'oraison, cette persévérance dans l'oraison. Elle y incite beaucoup, la Madre. Elle dit, ne fuyez pas, parce que effectivement, vous pensez que ça va être dur, vous n'obtenez rien, vous avez l'impression d'être tout à fait ailleurs que là où vous êtes. Mais non, persévérez, parce que peu à peu, de ce recueillement, je dirais, qui participe de nos efforts, qui serait un recueillement actif, hein, plutôt naturel de notre part, Dieu va venir à notre secours. Mais déjà, ce recueillement actif, la Madre, elle dit que c'est déjà, sans la grâce de Dieu, on peut rien faire.
C'est Saint-Thérèse d'Avila.
Oui, c'est Saint-Thérèse d'Avila. Aucune bonne pensée ne peut venir même sans la grâce de Dieu. Donc, vous voyez, Thérèse d'Avila, elle est comme Jésus. Hein, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, hein, donc la grâce de Dieu, c'est cela. C'est une mise en présence, la vie de prière, c'est une mise en présence de cet auteur de la grâce qui va justement nous faire participer à sa vie divine, qui est une grâce, évidemment, et qui va peu à peu nous donner, eh bien, le goût de lui. Voilà. Et les gustos, hein, la Madre, elle en parle beaucoup, des goûts, les goûts de Dieu, hein, qui ne sont pas des consolations sensibles, non, qui sont des touches, des attouchements divins, voyez, qui permettent à l'âme, justement, de s'approcher de Dieu de plus en plus, de voir que Dieu est là et qui...
Concrètement, ça donne quoi? C'est-à-dire, si c'est pas des consolations.
Alors,
prenez un exemple simple. C'est-à-dire, vous prenez un temps d'oraison donc dans votre chapelle, et ce toucher de Dieu, ça ressemble à quoi? C'est une certaine paix, justement.
Oui, c'est une paix, bien sûr. C'est la paix. La plus grande caractéristique, si vous voulez, de la vie de prière et de l'authenticité de la vie de prière et de la vie chrétienne même, hein, de la vie de grâce, c'est la paix. Hein, c'est la paix divine. C'est, Jérusalem, cité de la paix. Donc, vous voyez.
Quelle paix? Parce que vous qui êtes remonté contre un certain travers du monde contemporain.
La paix, c'est pas la mollesse. La paix, c'est pas la mollesse. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Saint-Thérèse d'Avila dit que oraison et mollesse ne vont pas ensemble, voyez. Hein, et donc, ce n'est pas la tranquillité, voyez. Ce n'est pas non plus je fais mon petit cocon, je suis comme le hamster, voyez, dans ma petite niche, voyez. Hein, c'est je suis fermé aux autres. Je suis bien. C'est pas un bien-être qu'on cherche dans l'oraison. On cherche la vie de Dieu. On cherche Dieu lui-même, on cherche le Christ lui-même, parce que Dieu seul suffit, et qu'il nous donne tous les moyens dont nous avons besoin justement pour vivre de lui, vivre en lui.
Mais alors, quelle est cette paix dans ces cas-là?
Alors, c'est une paix qui est une paix qui est la paix de la certitude de la foi et de l'amour que Dieu a pour nous. Hein. Je vous rappelle, on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont nous nous savons aimer, définition de Sainte-Thérèse d'Avila magnifique, de l'oraison, c'est la meilleure à mon avis qu'on ait jamais produite, hein. Nous sommes aimés de Dieu, c'est lui qui nous aime en premier. Il va donc manifester son amour peu à peu, plus on se dispose à être avec lui, avec l'ami véritable.
Donc c'est pas qu'on se sent aimé, c'est qu'on se sait aimé, c'est ça ?
On se sait aimé, voilà. La Madre dit que le plus important c'est de se savoir aimer, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se sentir aimé. Hein, la petite Thérèse, elle n'arrête pas de parler aussi « je sentis la charité ».
C'est Thérèse de Lisieux.
Hein, je sentis la charité, en un mot, la charité entraînée dans mon cœur, et dès lors, le besoin de m'oublier, et dès lors, je fus heureuse. Donc, il y a quand même des sentiments surnaturels. Et je voudrais, et je serais infidèle à la Madre. Donc, si je ne citais pas, je pense qu'avant de terminer l'émission, il faut absolument citer ce passage du livre de la vie de Sainte Thérèse.
Allez-y.
Ça fait pas 15 lignes, mais vous allez voir, ça corrobore l'image que vous avez donnée au début, en préambule de cette émission, l'image du jardin. Elle nous donne 4 manières d'arroser notre jardin intérieur. Mais elle parle d'abord du jardin, voilà. Il me semble qu'il y a 4 manières d'arroser un jardin. D'abord en tirant de l'eau d'un puits à force de bras, ce qui exige une grande fatigue de notre part. Ou bien en tournant à l'aide d'une manivelle une noria garnie de godets. Évidemment, la noria, on ne sait plus trop ce que c'est. Donc une sorte de seau avec plusieurs... De roues avec plusieurs godets, voilà. Comme je l'ai fait moi-même quelques fois. Avec moins de travail, on puise une plus grande quantité d'eau. Ou bien en amenant l'eau soit d'une rivière, soit d'un ruisseau. La terre est alors mieux arrosée et mieux détrempée. Il n'est pas nécessaire d'arroser aussi fréquemment et le jardinier a beaucoup moins de travail. Enfin, il y a la pluie abondante. C'est le Seigneur qui arrose alors sans aucun travail de notre part. Et ce mode d'arrosage est sans comparaison supérieur à tous ceux dont nous avons parlé. Alors tout ça, évidemment, c'est, on peut la... D'abord, c'est l'oraison de recueillement. Hein, l'oraison de recueillement passif. Ensuite, la grâce de l'oraison de quiétude. Et enfin, la grâce d'oraison d'union avec la pluie abondante.
Alors, on y viendra peut-être à cette
dernière... C'est Dieu qui saisit totalement l'âme, voyez, toutes ses facultés. pour l'unir à lui, hein, dans une connaissance contemplative. C'est-à-dire une connaissance qui est une expérience, dans la foi toujours, une expérience de Dieu. Vous savez, les saints du Carmel, ils sont pas très, ils en avaient, Saint Jean de la Croix, très extase, phénomène extraordinaire. Pour eux, d'ailleurs, ils le disent bien, c'est pas la vie contemplative. C'est pas, ce sont des accidents qui peuvent ou ne peuvent pas. Sainte Thérèse de Lisieux, elle n'a jamais eu d'extase, elle n'a jamais eu de grande. Elle a eu des grâces extraordinaires, je ne lis pas cela, mais elle n'a pas eu de grandes expériences mystiques extraordinaires.
Elle a eu la vraie mystique qui est de se savoir aimer de Dieu, c'est ça ?
De se savoir aimer de Dieu et de lui répondre par notre docilité à l'Esprit-Saint, dans l'Esprit-Saint, pour que nos facultés, intelligence, mémoire et volonté soient prises par la foi, l'espérance et la charité. Alors, c'est ça la vraie vie mystique.
Exemple, vous avez pris Sainte Thérèse de Lisieux, vous parlez souvent de la Madre, Sainte Thérèse d'Avila. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple dans sa vie qui illustre, quelque chose de sa vie qui illustre ce chemin que Dieu peut faire à tout à chacun, qui est donc de passer, on va dire, de cette méconnaissance que l'on a de l'amour de Dieu, ou de cette forme de dispersion, à cette habitude, en fait, de se savoir aimer, cette espèce de mystique ordinaire, quoi. C'est, je vous entends.
Bien sûr. Alors, si vous voulez, il faut, moi, je conseille, hein, comme porte d'entrée, hein, des œuvres de Sainte Thérèse d'Avila, et même comme porte d'entrée même du mystère du Carmel, parce que c'est quand même elle, la réformatrice du Carmel, hein, au XVIe siècle en Espagne, d'entrer par la porte du livre de la vie, son autobiographie, hein, la Vida. Où là, comme Sainte Thérèse de Lisieux avec l'histoire de son âme, c'est un journal de son âme, c'est un journal spirituel. Elle nous dit sa progression, justement, dans la vie spirituelle, dans la vie d'oraison. Alors, c'est extraordinaire de voir, vous me demandez un exemple, mais c'est pétri d'exemples dans la vie. Alors, un seul exemple, c'est que, alors qu'elle découvre, elle est malade à un moment donné, elle entre à l'incarnation, elle est rentrée pour des motifs qui sont, elle veut être religieuse, mais enfin, en même temps, comme à l'époque, religieuse, mais en même temps, on fait un peu ce qu'on veut, et puis justement, elle passe son temps. Pourtant, elle a lu l'abécédaire d'un franciscain, Francisco de Osuna, l'abécédaire de l'oraison, donc un livre sur l'oraison que son oncle lui avait passé quand elle était en convalescence chez lui. Et puis, elle a dévoré ce livre, elle a découvert l'oraison, mais à un moment donné, elle l'abandonne. Alors, par contre, elle en parle. Elle va au parloir, alors elle est convoquée à tous les parloirs, parce qu'en plus, c'est une très belle femme, donc effectivement, il y a même des gentilshommes qui viennent la voir, mais pas du tout pour l'entendre parler d'oraison, mais surtout pour la voir, voyez. Et donc, elle se prend au jeu, elle abandonne pendant des années la vie d'oraison, en se disant, c'est pas fait pour moi. Mais par contre, elle en parle, voyez, elle en parle. Et puis, à un moment donné, elle comprend, tout d'un coup, elle comprend que le Seigneur l'invite à pratiquer elle-même l'oraison, parce qu'il lui réserve des tas de choses qu'elle ne connaît pas encore.
Ma question, c'était sur les fruits, justement. C'était
alors, sur les fruits.
Quel exemple de changement chez Sainte Thérèse d'Avila, où elle expérimente cette paix que vous décrivez presque quotidienne.
C'est surtout l'oraison de quiétude, voyez. L'oraison de quiétude, c'est un recueillement très profond, où l'âme, et ça sera encore davantage dans l'oraison d'union, où l'âme est saisie par Dieu. Elle a, si vous voulez, elle fait une expérience de l'intimité de Dieu au plus profond de son cœur. Donc, si vous voulez, ce sont des grâces d'union qui font que l'âme va être éprise de son bien-aimé et qu'elle va lui répondre par toute sa vie en faisant des choses extraordinaires comme la fondation des 13 monastères de son temps. Faut le faire quand même parce qu'elle y allait en petite carriole, vous voyez, il n'y avait pas le TGV à l'époque, hein, et donc fallait quand même le faire, donc 13 fondations de son temps.
Thank you.
Radio Présence dans le Comminges 94.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Trouver Dieu chez soi, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, quatrième émission donc de notre série sur la prière d'oraison. Pardon. Et nous sommes ce matin avec Jean-Gabriel Rueg, pour rappel, pour ceux qui nous rejoindraient, qui est religieux carme, enflammé et prieur du couvent de Toulouse. J'aimerais que vous reveniez sur sur cette image que vous avez prise de Sainte Thérèse d'Avila et du jardin. Donc l'image du puits, de la roue à godet, du canal d'irrigation et de la pluie après qui tombe. Donc c'est tout ça, c'est une histoire d'irrigation.
Oui.
Reprenez peut-être la première étape. La première étape, c'est...
La première roue, alors je reprends textuellement.
C'est le début en fait de la prière, c'est-à-dire on peine et on est obligé d'aller chercher l'eau du puits
exactement.
À la main, c'est ça ?
Exactement. C'est la première forme de l'oraison contemplative, c'est le recueillement surnaturel. C'est une première forme d'oraison que tout le monde peut atteindre vraiment si, en persévérant, voyez, un peu dans la prière, le recueillement surnaturel, le Seigneur va venir à notre secours si on se dispose effectivement à prier. Ensuite, la deuxième eau, c'est l'oraison de quiétude.
C'est la fameuse roue à godet,
c'est ça ? C'est un recueillement des puissances naturelles au-dedans de nous. C'est effectivement la noria.
Alors la noria, il faut réexpliquer. Donc on est toujours dans le jardin, on n'est plus obligé de tirer l'eau du puits à la main avec peine, mais il y a comme une espèce de roue intérieure qui s'est mise en place, c'est ça ?
Alors exactement. Il y a donc l'eau du puits au départ, première eau, ensuite après la noria, et ensuite en amenant l'eau soit d'une rivière, soit d'un ruisseau.
Donc ça c'est l'irrigation.
Alors ça c'est l'irrigation, ça va être le sommeil des puissances. C'est une eau qui coule du ruisseau de la fontaine. Le Seigneur veut en effet aider si bien le jardinier qu'il prend pour ainsi dire sa place.
Alors attendez, vous allez trop vite. La roue à godet, c'est quoi en fait?
Alors la roue à godet, c'est l'oraison de quiétude.
Oui, mais ça ressemble à quoi? C'est ce que vous décriviez?
C'est un recueillement des puissances, un très fort recueillement des puissances naturelles de l'âme. Les puissances de volonté est occupée. Elle est captive de son bien-aimé, de ce Seigneur, voyez. Et elle ne peut que donner son consentement à ce Dieu qui l'aime, voyez. Elle jouit de ce contentement, voyez, il y a une véritable jouissance, c'est les délices de l'oraison, voyez, c'est les délices de l'oraison. Et il faut dire aussi, voyez, on n'en parle pas assez, il faut dire qu'il y a, alors évidemment, pour les âmes qui sont disposées, à qui Dieu veut faire la grâce, c'est lui qui voit, mais effectivement, il faut tout de même parler de ces délices de l'oraison, sinon, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, voyez ce que je veux dire. Bon, donc... il faut parler. Alors, le sommeil, la troisième mot.
On se tient toujours dans le jardin, on ne tire plus à la force du bras. Il y a comme une habitude et un délice, en fait, d'un sentiment de la foi en la présence de Dieu régulière. Et alors, après, s'ouvrent encore quelques
mais
étapes.
Mais il y a plus que ça que la foi. Il y a une expérience, véritablement, de jouissance de Dieu, de profonde de quiétude, de paix profonde de l'âme. Mais ce n'est pas encore le sommeil des puissants. Le sommeil des puissants, c'est Dieu qui saisit toutes les puissances et qu'il est...
C'est quoi les puissances, pour rappel ?
Les puissances naturelles, l'intelligence, la mémoire et la volonté de l'âme. C'est-à-dire qu'il saisit toute l'âme pour qu'elle soit entièrement ravie. Mais elle ne sait pas comment ça se fait. Elle ne sait pas comment ça se fait. Elle sait que ça se fait, mais elle ne sait pas comment c'est fait. Thérèse d'Avila explique ainsi. Le Seigneur veut aider si bien le jardinier qu'il prend, pour ainsi dire, sa place et fait presque tout le travail. Mais presque. C'est pas encore à ce moment-là l'oraison d'union. C'est la quatrième eau, la pluie qui tombe du ciel. C'est encore mieux, vous voyez, et qui arrose le jardin. Alors l'âme, je cite Thérèse d'Avila dans le chapitre 20 de son autobiographie, « L'âme sent au milieu des délices les plus profondes et les plus suaves une défaillance presque complète. Cette quatrième eau produit l'union complète ou même l'élévation d'esprit dans laquelle le Seigneur prend l'âme et l'élève complètement de terre comme les nuées ou le soleil attire les vapeurs. »
Donc on est dans son jardin et il pleut, on va dire, on continue.
Le jardin de l'âme, vous l'avez compris, ce jardin c'est le jardin de l'âme qui est arrosé par la pluie elle-même. Cette pluie c'est le symbole même de cette quatrième eau de l'oraison, cette fontaine de l'oraison où justement le Seigneur prend complètement uni profondément, complètement dans... et en général, c'est, ça préfigure ce que l'on appelle le mariage spirituel ou l'union transformante, pour parler comme Saint Jean de la Croix. Le mariage spirituel, c'est plutôt Sainte Thérèse qui en parle, c'est-à-dire cette union de volonté entre... celui qui aime, donc le Christ, et l'âme qui est aimée.
Alors juste, frère Jean-Gabriel, ce qu'on entend, c'est que tout ça, c'est donc la Madre, en l'occurrence celle que vous citez, Sainte Thérèse d'Avila, qui décrit, on va dire, cet horizon vers laquelle, auquel on serait appelé tout à chacun, et qu'en même temps, c'est pas des maths tout ça, c'est-à-dire qu'il y a, une grande liberté qui tient à la liberté de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut, se lancer dans la prière, mais avec beaucoup de, détachement, c'est difficile, non ?
Non, absolument, absolument. Mais oui, le détachement, ça fait partie des fruits de l'oraison, et ça fait partie de... Le détachement, ça fait partie des les trois vertus principales dont parle la Madre. Alors, c'est dans le chemin de perfection, hein, les trois vertus essentielles, hein, qui nous préservent justement de l'illusion d'être des grands saints ou des grands contemplatifs, c'est l'amour mutuel, si vous voulez, la vérification de l'authenticité de notre vie d'oraison, elle se fait par la vie, par notre vie. Ça, elle insiste beaucoup là-dessus, la Madre. Hein, à savoir l'amour mutuel, le détachement de tout ce qui n'est pas Dieu pour Dieu, voyez, tout ce qui nous empêche d'aller véritablement vers lui, d'être unis à lui, et l'humilité. L'humilité qui est, pour elle, la nourrice de la charité, mais c'est Sainte Catherine de Sienne qui, l'a définie comme ça, mais elle a tout à fait raison. L'humilité revient sans cesse chez la Madre, hein, comme en tant que c'est le la terre où peut germer le mieux la charité. Parce que précisément, l'humilité, c'est de reconnaître qu'on ne peut rien sans l'aide de Dieu. Donc, on est totalement dépendant de lui. Et voyez, toute la vie chrétienne, et Sainte Thérèse de Lisieux, alors particulièrement, nous le rappelle avec sa voix d'enfance, c'est de devenir de plus en plus petit pour être de plus en plus grand en Dieu. C'est-à-dire petit à nos yeux pour justement accueillir dans l'humilité profonde qui considère que humus, humilité, ça vient de humus, la terre. Donc ça, nous sommes terre, mais cette terre a besoin d'être arrosée et d'être éclairée aussi par le soleil, qui est le soleil divin, et l'eau de l'Esprit Saint aussi. C'est-à-dire qu'on est totalement dépendant, dans, non seulement dans tout notre être, parce que nous n'existerions pas si Dieu ne nous avait pas donné d'exister, mais en même temps, par la vie de grâce, nous sommes totalement dépendants, hein, de Dieu. Et pour cela, la meilleure attitude, la plus belle attitude, c'est d'accueillir, de croire à cet amour de Dieu pour nous, de l'accueillir. Et précisément, la prière...
Mais frère Jean-Gabriel, qui rêve d'humilité aujourd'hui ? Personne ne se lance dans l'aventure de la prière pour devenir humble. C'est...
Oui, mais justement, ben non, parce que celui qui n'est pas humble ne peut pas rentrer dans la vie de prière. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Oh Jésus, mais je croyais qu'il était gentil, tout plein là. Alors il met une condition. Oui, si vous ne changez pas, vous n'entrerez pas. Je suis désolé, c'est la conversion. La conversion à l'amour de Dieu qui nous précède, mais la conversion qui consiste aussi de notre part que notre volonté consente véritablement à l'amour et à l'enfantement, si vous voulez, que Dieu veut pour nous dans l'amour, dans l'Esprit Saint.
Eh bien voilà, j'allais dire tout est dit, évidemment non, mais en tout cas c'est une belle introduction donc, à la vie d'oraison. Quelques informations pratiques pour finir, un livre que vous conseillez cette semaine, comme on en a conseillé tout au long de cette courte série, L'Oraison Thérésienne, c'est aux éditions du Carmel.
Une réédition.
L'Oraison Thérésienne, édition du Carmel. Et puis vous teniez à préciser pour ceux qui sont toulousains qu'au couvent des Carmes, donc c'est avenue Jean Rieux, du côté de la Côte Pavée à l'ouest de Toulouse Centre, samedi et dimanche prochain, donc les éditions du Carmel sont ouvertes, vente de livres, samedi de 9h à 18h et dimanche de 11h à 12h30. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.